Laudetur Jesus Christus.
La promesse des pays étrangers en Libye, nous allons retirer nos troupes, ont-ils affirmé hier lors du sommet de Berlin. Une promesse déjà faite dans le passé. Nous retrouverons notre correspondante dans la capitale allemande. Le Mozambique en proie aux violences djihadistes. Les pays d'Afrique australe veulent aider leurs voisins et envoient des hommes sur place, tandis que de nouveaux affrontements éclataient hier dans le nord du pays. Également dans ce journal, le président américain entend lutter contre la violence et cela passera, nous l'entendrons, par un renforcement du contrôle des armes à feu. Puis nous irons à Hong Kong. De nombreux citoyens déplorent la fermeture d'un journal pro-démocratie. Reportage à suivre. Enfin, dans notre dossier de la rédaction, retour sur la délicate situation politique en Arménie. Le Premier ministre a été confirmé par les urnes dimanche dernier, mais nous l'entendrons, cela est loin de résoudre tous les problèmes.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Avant de développer nos titres, une bonne nouvelle. Au Mali, le prêtre et les quatre paroissiens kidnappés lundi soir près de Mopti ont été libérés. Ils ont été déposés hier au bord de la route près du village de Parou dans le centre malien. Les ravisseurs et leurs motivations restent toujours inconnues. Une nouvelle fois, les pays présents en Libye promettent de retirer leurs troupes du pays. La crise en Libye était au menu hier d'un sommet international à Berlin, organisé par le gouvernement allemand et par les Nations Unies. Cette réunion visait également à soutenir l'organisation d'élections parlementaires en décembre et donc à obtenir un retrait des troupes étrangères présentes dans le pays. À Berlin, Delphine Derbollier.
Pour Heiko Maas, le chef de la diplomatie allemande, la conférence de Berlin a tout simplement été un succès. Les pays participants ont approuvé l'idée de retirer l'ensemble des soldats et mercenaires étrangers présents en Libye. Ils seraient 20 000 au total, envoyés par la Russie, la Turquie ou encore l'Égypte. Ces pays participaient hier à cette conférence. Le retrait de ces soldats et mercenaires se fera toutefois par étapes et de manière simultanée, selon les pays concernés. Ce sera un marathon plus qu'un sprint, explique le ministre allemand. Pour les organisateurs de cette conférence, ce retrait est central pour l'avenir de la Libye. Un cessez-le-feu est en effet en vigueur dans le pays et depuis le début de l'année, un gouvernement de transition est en fonction, un gouvernement qui devrait organiser des élections en décembre. Ce retrait des troupes étrangères se fera-t-il toutefois ? L'an dernier, lors de la première réunion de Berlin, l'engagement avait déjà été pris, il n'avait jamais été mis en pratique. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
En Algérie, les résultats officiels des législatives anticipées du 12 juin viennent d'être annoncés. C'est le parti au pouvoir, le FLN, le Front de Libération Nationale, qui obtient le plus de sièges, 98 sur 407. Arrive ensuite le MSP, un parti islamiste algérien. À noter la très faible participation, 23% des électeurs se sont rendus aux urnes. C'est le taux le plus bas de toute l'histoire de l'Algérie. Une frappe aérienne sur un marché très fréquenté dans le Tigré en Éthiopie. Peu d'informations pour l'instant sur le bilan des victimes. Le marché, à une trentaine de kilomètres de Mekele, était bondé. La zone est entourée de barrages militaires, empêchant notamment les humanitaires de se rendre sur place. Les États d'Afrique australe au secours du Mozambique. Réunis en sommet, les pays membres de la SADC, la Communauté de Développement de l'Afrique australe, se sont mis d'accord hier sur l'envoi de troupes armées afin d'aider Maputo à lutter contre les groupes djihadistes qui continuent de déstabiliser le nord-est du pays. Olivier Bonnel.
Oui Marine, le président mozambicain Philippe Nyusi a subi de fortes pressions des pays voisins. Au mois de mai dernier, la question de l'envoi de militaires dans le nord-est du Mozambique avait déjà été discutée, mais Maputo n'en voulait pas. Il y avait pourtant urgence de déployer des troupes, selon l'organisation régionale, face à la dégradation de la situation sécuritaire. Hier après-midi, d'ailleurs, alors que les pays de la SADC étaient réunis, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans le district de Palma entre djihadistes et forces gouvernementales. Alors pour l'heure, on ne connaît pas encore les détails de cette force militaire régionale, mais le chiffre de 3000 hommes a été évoqué. Des avions, des hélicoptères et des forces navales devraient être mobilisés. les pays d'Afrique australe qui ont également demandé dans leur déclaration l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence pour le Mozambique où près d'un million de personnes souffrent de la faim selon le Programme alimentaire mondial. Et depuis 2017, la province de Cabo Delgado est déstabilisée par ces groupes djihadistes qui sèment la terreur. Près de 800 000 civils ont fui les combats, en majorité des femmes et des enfants. Les évêques du Mozambique, lors de leur dernière plénière, avaient prié pour la fin de ces violences et dénoncé surtout le manque de perspective et le détournement des ressources qui poussent de nombreux jeunes à rejoindre diverses formes d'insurrection, y compris terroristes.
Merci Olivier Bonnel. Aux Nations Unies, la Russie reste inflexible sur le dossier syrien. Malgré les pressions des différents pays, Moscou refuse la prolongation d'aide humanitaire transfrontalière en Syrie. Pour Moscou, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays priment sur l'aide humanitaire. Dans le nord-est de la Turquie, cela fait maintenant 2 mois que les habitants du village de Gourdere se battent pour protéger leur écosystème. Ils s'opposent au projet du gouvernement de construire un port dans la vallée de Rize, vallée luxuriante de forêts et de champs de thé. Les habitants manifestent pour défendre la nature et leur mode de vie qui en découle. Le pouvoir a déployé la police anti-émeute pour maintenir l'ordre. Aux États-Unis, Joe Biden pousse encore pour renforcer le contrôle sur les armes à feu. Ce n'est pas suite à une fusillade de masse que le président américain s'est exprimé, mais sur fond de hausse générale de la criminalité ces derniers mois à travers le pays. En effet, en 2020, les homicides ont augmenté de près d'un tiers à cause de différents facteurs, notamment la crise économique liée à la pandémie. L'occasion pour Joe Biden de remettre un peu la pression sur les républicains. À New York, Loïc Loury.
Début avril, suite à une série de fusillades, Joe Biden évoquait une épidémie et une honte internationale. Même message lancé hier depuis la Maison-Blanche. Pour sauver des vies, il faut, dit-il, limiter la circulation des armes à feu. Face à l'augmentation générale, cette fois de la violence, il annonce la création de 5 unités destinées à lutter contre le trafic d'armes dans les villes les plus touchées, à défaut d'aller plus loin. Vérification d'antécédents, interdiction des fusils d'assaut et des chargeurs haute capacité. Personne n'a besoin d'une arme qui peut tirer 100 coups, à moins que vous pensiez que les serres soient équipées de gilets pare-balles. Un encadrement plus strict auquel les Américains sont en majorité favorables, mais repoussé par les républicains qui préfèrent associer l'insécurité actuelle, notamment à l'onde de choc née de la mort de George Floyd. Et la main tendue de Joe Biden ne devrait rien y faire. Mes amis, ça ne devrait pas être un problème démocrate ou républicain, c'est le problème de l'Amérique. Montrons au monde, montrons-nous que la démocratie fonctionne. Faute de pouvoir légiférer sur les armes, le président devra s'attaquer à l'insécurité d'une autre façon, car les républicains ne se feront pas prier pour faire campagne sur ce thème lors des élections de mi-mandat l'an prochain. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
La troisième vague de Covid semble arriver au Brésil. Plus de 115 000 nouveaux cas ont été recensés hier. C'est un nouveau record pour le Brésil, où plus d'un demi-million de personnes sont mortes du coronavirus. Des criminels de guerre, des agents de l'Empire Yankee, comprendre les États-Unis. C'est ainsi que le président du Nicaragua, Daniel Ortega, nomme ses adversaires politiques jetés en prison. À 5 mois de la présidentielle, 19 opposants ou potentiels candidats ont été mis derrière les barreaux. Hier, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a dénoncé une nouvelle phase de répression au Nicaragua. De longues files d'attente ce matin à Hong Kong devant les kiosques pour obtenir le dernier numéro du journal Apple Daily. Le quotidien pro-démocratie ferme ses portes après de nombreuses sanctions des autorités hongkongaises. On écoute le reportage de Philippe Dova.
Des centaines de Hongkongais ont bravé les fortes pluies tropicales pour acheter le dernier exemplaire de l'Apple Daily. Un acte symbolique de soutien à une profonde tristesse pour Andreas.
Le futur est très sombre pour le journalisme. Je ne pensais pas que ce jour arriverait si vite. Regardez les longues files d'attente. Depuis 3 ou 4 heures ce matin, les gens attendent ici, devant ce kiosque à Mongkok, juste pour acheter le journal.
Des personnes comme Timothy, qui n'a pas hésité à faire la queue ce matin.
Je n'ai pas dormi depuis minuit jusqu'à maintenant. Je ne peux pas croire que l'Apple Daily ferme ainsi. Le Parti communiste chinois voulait qu'Apple Daily ferme avant le 1er juillet.
Car selon Timothy, pas question que les festivités du 100e anniversaire du Parti communiste chinois puissent être troublées par un article du tabloïd pro-démocratie. Dans le quartier populaire de Mongkok, le kiosque de M. Ma ne désemplit pas. En temps normal, il vend 20 d'exemplaires par jour. Il en a commandé 1000 aujourd'hui. Et les clients comme Jackie se les arrachent comme des petits pains.
J'en ai acheté 10. C'est le dernier
numéro d'Apple Daily, c'est la mémoire de Hong Kong. Je veux les garder aussi longtemps que je le pourrai. C'est très triste. Ça prouve que la liberté de la presse, la liberté de parole ont été brutalement supprimées par le gouvernement.
À côté des nombreuses piles d'Apple Daily, le Dongfeng Daily, journal pro-Pékin, titre en une 1995-2021, Apple Daily ferme. Fait-on ce jour historique, mais il ne fait pas recette. Monsieur Ma n'en a vendu que 2 exemplaires ce matin. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
Des centaines de manifestants pro-démocratie se sont rassemblés dans les rues de Bangkok en Thaïlande ce jeudi, malgré l'interdiction liée à la pandémie, pour marquer l'anniversaire de la révolution de 1932 qui a mis fin à la monarchie. Dimanche dernier, les Arméniens ont voté largement en faveur de Contrat Civil, le parti du Premier ministre Nicole Pachinian, qui a remporté 54% des votes. Malgré une abstention élevée, un électeur sur deux n'a pas fait le déplacement. C'est pour le chef du gouvernement arménien une victoire qui lui permet de se relégitimer après la défaite subie par l'Arménie en novembre dernier face à l'Azerbaïdjan. La crise politique s'est achevée avec ces élections, a ainsi déclaré Nicole Pachinian, alors qu'il avait été vivement contesté dans la rue par ses opposants et par l'armée. Au pouvoir depuis 2018, après une révolution de velours, Nicole Pachinian va pouvoir poursuivre ses réformes pour assainir notamment la vie politique. Mais le contexte géopolitique n'est guère favorable à l'Arménie et cette victoire ne devrait pas changer grand-chose. C'est ce qu'estime Talir Terminassian. Elle est directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques.
Ce score est étonnant dans la mesure où il s'agit d'un gouvernement qui a incarné une défaite absolument cuisante et donc ce gouvernement aurait dû, en bonne logique, soit donner spontanément sa démission, soit en tout cas être invalidé, et cela n'a pas été le cas. Alors qu'est-ce que cela veut dire de cet électorat? Ça veut dire, selon moi, tout simplement que c'est un électorat qui continue à avoir un comportement post-soviétique, justement, c'est-à-dire qui vote massivement pour le pouvoir en place. Cela dit, Pachinian avait une popularité réelle, vous le savez, depuis la révolution d'avril 2018 qu'il avait portée au pouvoir. Mais on est quand même un peu stupéfait devant ce score majoritaire qui le reconduit dans une légitimité qui repose surtout sur ce qu'il a réalisé ou sur ce qu'il escompte réaliser dans le domaine de la politique sociale. Dans ce sens-là, finalement, l'électorat arménien semble ne s'être préoccupé que de questions de politique intérieure. Et c'est très étonnant car l'Arménie se trouve actuellement dans une situation extrêmement dangereuse sur le plan géopolitique, mais ça ne semble pas du tout avoir joué dans cette élection.
Nicole Pachinian a déclaré au lendemain de sa victoire que maintenant il allait pouvoir en quelque sorte instaurer la dictature de la loi. Est-ce que c'est là aussi sur ce terrain-là, le terrain de la moralité dans la vie politique, de la lutte contre la corruption, qu'il est attendu le plus par ses électeurs?
Cette lutte contre la corruption est effectivement son principal mot d'ordre, mais dans cette invocation permanente, il y a quelque chose de l'ordre du populisme de la part de Nicole Pachinian qui a su jouer de cette carte de façon très convaincante apparemment auprès des électeurs. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire de dictature de la loi, en effet, il l'a proclamé à plusieurs reprises dans différents meetings, et cette dictature de la loi, je ne sais pas très bien là encore une fois ce que ça annonce, puisque il a expliqué que 2018 c'était la révolution de velours et il a laissé entendre qu'on allait passer dans une espèce de deuxième étape. Et donc, on peut interpréter de différentes manières cette annonce et s'inquiéter en tout cas de cette nouvelle phase, parce que cela laisserait entendre que Nicole Pachinian va encore une fois s'intéresser au nettoyage de la corruption à l'intérieur de son pays, mais son pays lui-même est totalement menacé sur ses frontières et l'otage, en quelque sorte, du rapprochement turco-azéri dans un contexte que je trouve, en tout cas à titre personnel, extrêmement dangereux.
Nicole Pachinian va-t-il parvenir à restaurer la confiance et l'unité du pays après sa défaite face à l'Azerbaïdjan?
La confiance et l'unité, il semble en disposer puisqu'il s'est offert cette réélection qui n'a pour seul but que d'orchestrer sa relégitimation à l'intérieur. Mais on peut douter de sa capacité à diriger le frêle esquif qu'est l'Arménie dans cet environnement géopolitique. Je donne simplement un exemple. Depuis quelques semaines, le ministère des Affaires étrangères n'a pas de ministre. Il n'y a ni ministre ni vice-ministre. Donc on peut se demander pourquoi ce poste est resté vacant dans une situation pareille, on peut douter donc de la capacité de l'appareil d'État à faire face à la situation réelle. C'est pourquoi j'ai tendance à minimiser finalement le résultat de cette élection qui ne va pas changer grand-chose à la situation qui était celle de l'Arménie il y a quelques semaines.
Voilà, interrogé par Xavier Sartre, Taline Terminassian, directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 13h pour un prochain retour de l'information. Je vous souhaite une très belle journée.